France Culture. Ture, question du soir. Quentin l'a fait.
C'est une situation bien rare que l'on a connue mardi dernier. Pour la première fois depuis 1958, un texte de loi a été voté sans majorité à l'Assemblée nationale et 149-3. Si le budget de la sécurité sociale est décrié pour ne convenir parfaitement à personne, il a été voté par 247 députés et 234 contre. Un pari du compromis que le Premier ministre Sébastien Lecornu considère avoir remporté alors que l'Assemblée ne dessine aucune majorité claire. Alors, le vote de mardi dernier marque-t-il un tournant vers une culture du compromis politique où le consensus n'était-il que de circonstances? Une invitée, une philosophe ce soir pour nous en parler, Céline Spector. Bienvenue et bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, je le disais, professeur de philosophie politique à Sorbonne Université et l'autrice notamment de l'ouvrage intitulé « Nos démos, souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe », un ouvrage qui a paru en 2021 aux éditions du Seuil. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir.
La première chose, c'est que je le dirais que si j'écoutais mon cœur et si j'écoutais mes tripes, je vote contre ce texte. Je ne supporte pas ce que vous avez fait de l'hôpital depuis tant d'années. Qui peut aujourd'hui être satisfait du système de soins? Qui peut se satisfaire des délais d'attente? Qui peut se satisfaire des brancards dans les urgences? Qui peut se satisfaire aujourd'hui des soignants qui n'en peuvent plus et qui sont en burn-out? Voilà ce que moi, ça me dit si j'écoute mes tripes et si j'écoute mon cœur. Mais un moment, après des semaines de débats, et parce que quand on est député, on ne peut pas écouter que son cœur et que ses tripes, eh bien un moment, on essaye de prendre du recul.
Cyril Châtelain, la présidente du groupe écologiste et social à l'Assemblée nationale, par ailleurs députée de l'Isère. Lorsque l'on entend, Céline Spector, cette expression « si j'écoutais mon cœur et mes tripes », qu'est-ce que cela dit de la culture du compromis à la française? C'est si difficile, si compliqué d'approcher la raison?
Alors, je ne sais pas si c'est la raison qu'on essaye d'approcher à travers une culture politique parlementaire. Ce qui est certain, c'est que dans un contexte de fragmentation très important de l'Assemblée nationale, aller vers une culture de compromis, de coalition est difficile. Et en particulier parce que des élections s'annoncent bientôt. Donc ça, c'est l'aspect vraiment très politique-politicienne. Et peut-être plus profondément, dans la représentation telle que nous la concevons en France, depuis notamment la réforme constitutionnelle de 2008, il y a eu un rééquilibrage des rapports entre pouvoir législatif et exécutif dans le sens d'un parlementarisme un peu renforcé. Alors on avait créé la Constitution de la Ve République pour essayer de réagir un peu aux dérives de la Constitution précédente, mettre un peu plus de stabilité politique, redonner des leviers à l'exécutif, mais on s'est aperçu qu'il fallait quand même aussi rééquilibrer et donner plus de pouvoir, donc ça passait par toute une série de mesures qui ont fait que la culture majoritaire s'était bien installée, il y avait un certain pouvoir, notamment lié à l'ordre du jour partagé avec le gouvernement. Sauf que là, avec effectivement notre majorité introuvable, on s'est trouvé dans cette situation impossible et construire une culture du compromis de la coalition s'est avéré tout à fait impossible en réalité. Et je crois qu'il a fallu les deux échecs précédents pour que cette nouvelle version puisse avoir lieu.
Et malgré tout, chacun depuis la semaine dernière explique qu'on est dans un tournant, la culture parlementaire est en train de se former petit à petit, pas à pas, à la culture du compromis. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que nous sommes actuellement les témoins d'un tournant de la culture politique française?
Je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour le dire. Et qu'en fait, il faut vraiment être très prudent. Il est absolument possible qu'il s'agisse simplement d'une alliance circonstancielle, que des alliances qui se font se défassent le lendemain est tout à fait envisageable. Donc je crois qu'il vaut mieux ne pas s'exprimer trop tôt.
Par ailleurs, que pensez-vous de l'expression « culture du compromis » C'est une culture selon vous? Est-ce que les Français en manquent de cette culture du compromis ou bien c'est une question d'abord et avant tout de pratique?
Alors peut-être qu'on peut revenir un peu sur cette idée qu'il faut une culture politique pour soutenir la démocratie et essayer de la faire vivre dans ces institutions. Donc un auteur auquel j'aime beaucoup me référer, Montesquieu, essayait de penser effectivement les formes politiques à partir de deux instruments conceptuels. Donc l'un, c'est la nature des gouvernements, c'est-à-dire finalement leur structure institutionnelle, la manière dont ils organisent le pouvoir, dont ils le distribuent, dont ils éventuellement le délèguent. Et puis la notion de principe, qui est effectivement la passion dominante qui donne lieu à à une vie sociale, à une vie concrète, à la manière dont les gouvernés et les gouvernants vont être mus par des ressorts affectifs, par des croyances, des passions qui vont ou non faire fonctionner la structure institutionnelle. Quand on parle de culture politique démocratique, ce qu'on désigne, ce sont les mœurs. C'est-à-dire, au fond, ce principe, c'est-à-dire ce qui doit permettre à la démocratie d'être vivante, ce qui la vitalise, ce qui lui empêche de se corrompre, d'aller vers son déclin et peut-être la transformation de la démocratie en une autocratie.
Et ça, donc, c'est une chose, mais c'est pour la démocratie en général. Et les mœurs liées à les démocraties, on voit bien comment ils peuvent infuser, transformer là aussi la pratique du pouvoir, la façon dont les citoyens regardent ce pouvoir même. Mais là aussi, on parle de parlementaires, de députés, est-ce que cette culture peut là aussi transformer leur façon d'être des élus de la République ?
Alors, qu'est-ce qu'un représentant ? C'est quand même ça aussi la question. Qu'est-ce que la représentation vraiment ? On peut la concevoir de différentes manières, mais le représentant, c'est un lieutenant. C'est lui qui porte les intérêts, les valeurs, les convictions, les aspirations de celui qu'il représente. Et évidemment, à partir de là, on a toute une réflexion sur ce que peut être et doit être une bonne représentation. Quelle doit être la culture politique du représentant ? Alors, il y a de nombreux philosophes et politistes qui ont notamment avancé l'idée que le représentant doit être celui qui défend une cause, qui défend la cause de ceux qu'il représente. Ça ne veut pas dire simplement qu'il est le reflet des croyances ou qu'il communique des passions ou des émotions, mais c'est celui qui filtre et qui peut-être raffine aussi les croyances de ses électeurs et qui porte ainsi ses aspirations peut-être mieux que ses électeurs ne l'auraient fait.
À ce sujet, voilà ce que vous écrivez dans Le Monde, dans une tribune passionnante qui a paru en octobre. Au lieu d'exprimer exactement les volontés du peuple ou de lui ressembler en tout point, les représentants doivent raffiner les opinions des citoyens. Ils sont voués à filtrer les intérêts et à transformer les croyances. C'est intéressant cette notion de raffiner des opinions.
Oui, alors faut pas l'entendre de manière trop élitiste quand même, c'est vrai qu'on pourrait l'entendre comme ça. Mais par exemple, le politiste Bernard Manin dit très bien que même nos démocraties modernes représentatives sont des hybrides, ce sont pas des pures démocraties, ce sont en réalité des hybrides de démocratie et d'aristocratie. Parce que l'élection, en fait le choix d'un représentant ou d'un gouvernant, c'est au fond une procédure aristocratique puisqu'il y a un choix, l'élection est une sélection. Et donc on valide ou pas des qualités à la fois intellectuelles, humaines, morales, politiques, que sais-je. Et donc, de ce point de vue-là, il ne faut pas imaginer que la représentation puisse être simplement le reflet, sans filtre, de ce que les électeurs veulent ou croient. Et donc, le risque dans notre sphère publique, qui est quand même très fragmentée et en un sens démédiatisée, c'est que par les réseaux sociaux, il n'y ait plus de filtre et que, en effet, la représentation perde cette dimension de sophistication des opinions. La politiste Nadia Urbinati parle également de responsiveness, c'est-à-dire qu'en réalité, le représentant doit aussi être à l'écoute de l'évolution des croyances, des passions, des opinions de ceux qu'il représente. Il doit pouvoir entendre le représentant ce que les représentés lui disent au fur et à mesure de sa mandature. Et donc il y a en fait un jeu assez subtil dans les deux sens. Le représentant filtre et raffine, mais inversement, il doit constamment rester à l'écoute des aspirations de ceux qu'il représente.
Je voudrais vous faire entendre la voix de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Elle s'exprimait le 5 décembre dernier.
Ça fait 3 ans qu'on me dit, mais c'est n'importe quoi, tes méthodes de dialogue, de consensus, de concertation, on est trop clivé, on n'a pas la culture du compromis en France. Eh bien, moi, j'y crois dans cette culture du compromis. Elle correspond en tout cas à ce qu'attendent les Français. Et donc, moi, je suis fière que les parlementaires de tous bords politiques se soient enfin mis dans cette logique, dans cet esprit de discussion, d'aller vers, de compromis. Donc, continuons à travailler, à faire tous des efforts pour doter un budget de la nation. Moi, j'ai toujours cru en cette Assemblée. Je continue à y croire.
Vous avez évoqué, Céline Spector, le pouvoir législatif et ses relations avec les citoyens. Mais quid des relations entre pouvoir législatif et exécutif cette fois-ci ? Est-ce que cette culture du compromis peut s'exprimer lorsque l'exécutif menace toujours de sanctions, qu'elles soient politiques ou autres ?
Alors là, précisément, ce qui a aussi rendu possible cet espace de discussion où on a tenté d'élaborer des compromis que certains qualifient de compromission, c'est précisément le fait que l'exécutif s'est abstenu connu, d'user d'un pouvoir fort.
Hein, il a laissé du champ.
Qui peut être considéré par certains comme une épée de Damoclès, à savoir l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution. Et donc, de ce point de vue, ça a laissé un peu plus de temps et un peu plus, disons, de place pour la mise en place de discussions et de compromis. Alors après, la question, c'est de savoir finalement, est-ce que c'est quelque chose qui va transformer en profondeur notre culture démocratique. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui n'est pas certain que l'on puisse le dire dès à présent.
Que nous dit Montesquieu, pour revenir à cet auteur que vous chérissez, oui. Céline Spector, des relations entre législatif et exécutif. Pour que ces relations soient saines, quels liens doivent-elles entretenir ?
Alors, c'est une question très difficile que Montesquieu essaye de théoriser au moment où il va en Angleterre et où il observe le système politique anglais après la révolution glorieuse de 1688-89. Ce qu'il observe, c'est en réalité un pouvoir qui est distribué entre plusieurs instances. Donc il y a le monarque qui détient le pouvoir exécutif, les deux chambres, la Chambre des communes et la Chambre des lords, qui se partagent le pouvoir législatif, et le roi qui détient un droit de veto. Donc, qui participe en un sens à la puissance législative lui aussi. Et curieusement, ce système, un peu diffracté, eh bien, réussit à produire de la loi et à produire une forme, finalement, d'accord qui va, en quelque sorte, se concocter de manière presque involontaire, puisque les intérêts s'opposent, les ambitions se heurtent, et à travers ce système de poids et de contrepoids, de checks and balances, on produit quand même de la loi, l'État n'est pas paralysé. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas un système de séparation des pouvoirs, seul le pouvoir judiciaire est séparé des deux autres. C'est un pouvoir qui est en quelque sorte distribué de telle sorte que les parties se coordonnent et s'équilibrent, mais à travers du conflit. Et une des choses que Montesquieu nous explique très bien, c'est aussi que ce conflit potentiel entre l'exécutif et le législatif, c'est aussi un conflit entre des parties de la société qui sont institutionnalisées en quelque sorte, eh bien, dans les diverses institutions. L'élite est représentée dans la Chambre des Lords, le peuple, partie du peuple, dans la Chambre des communes. Et donc, en un sens, il y a aussi des partis politiques qui vont défendre aussi plutôt le parti du roi, plutôt le parti du Parlement. Et c'est tout cela qui crée une société civile libre et dynamique, avec une certaine part de conflictualité.
Mais si je tire le fil, comment cela s'applique-t-il à la situation française aujourd'hui ? Le Sénat représente certes les territoires, dit-on parfois, l'Assemblée nationale, la nation tout entière. L'exécutif, que représente-t-il là aussi ? Comment on peut appliquer cette théorie de Montesquieu qu'il applique à la situation britannique, à ce que l'on connaît aujourd'hui ?
Alors, on n'a plus de monarque héréditaire, ça vous l'avez noté.
Ça, on l'a bien noté, certes, mais il y a encore un exécutif extrêmement fort, disent certains.
On a encore un exécutif fort, effectivement, dans le cadre de la Ve République. Et donc, on peut transposer, en fait, ça a été fait au moment de la Révolution française. Il y a eu tout un débat, notamment les monarchiens ont porté ce débat, sur la manière dont on pouvait accommoder le modèle anglais. Est-ce qu'il faut donner, par exemple, un droit de veto monarque, absolu, suspensif ? Et la question de l'équilibre dans nos institutions, elle est présente, parce que le 49-3, quand on met en jeu aussi, par exemple, la confiance du gouvernement, on risque la motion de censure. Donc, en fait, le Parlement a quand même pour vocation de contrôler, en fait, l'action du gouvernement. Donc, si vous voulez, c'est une imbrication très complexe des pouvoirs qui existe aujourd'hui. Et c'est passé notamment, nous, dans notre culture politique, par un autre ressort, qui est cette fois-ci donné par la figure de Rousseau et de ses héritiers politiques. C'est-à-dire qu'on a combiné, en fait, deux systèmes. Le système de la distribution des pouvoirs, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fait partie du bloc de constitutionnalité stipule que, en fait, une constitution où les pouvoirs ne sont pas séparés n'en est pas une. Et en même temps, l'influence de Rousseau, c'est-à-dire l'idée de la souveraineté du peuple qui devient, dans la déclaration des droits de l'homme, la souveraineté de la nation. Et donc, en combinant souveraineté du peuple et distribution des pouvoirs, on a en fait un régime qui est en fait quasiment le nôtre.
Donc, est-ce un mythe de penser, comme on le dit souvent par ailleurs, que Montesquieu est un penseur de la séparation des pouvoirs ? En vous écoutant, en vous lisant par ailleurs, on se dit surtout que Montesquieu est en réalité un penseur de l'équilibre des pouvoirs, plus que de la séparation.
Je pense que c'est beaucoup plus juste de le dire en ces termes. Équilibre ou distribution plutôt que séparation. Parce qu'encore une fois, ce qui doit être absolument séparé à ses yeux, c'est le pouvoir judiciaire. Et pourquoi ça ? Parce que, et il utilise pour la première fois le concept de volonté générale en ce sens, si quelqu'un, un corps, où un homme disposait de la volonté générale de faire la loi et en même temps pouvait appliquer cette loi à un particulier avec une volonté particulière, le risque de tyrannie serait énorme, la liberté politique serait remise en cause, on vivrait dans un État où n'existerait pas ce qu'il appelle cette liberté conçue comme opinion que l'on a de sa sûreté, tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que l'on a de sa sûreté, c'est-à-dire finalement ne pas avoir peur de l'arbitraire du pouvoir, ne pas avoir peur de l'abus de pouvoir.
Un extrait, c'est l'inspecteur de l'esprit des lois qui a paru en 1748, une lecture assurée par Diane de Vancey.
Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs. La puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger et l'autre simplement la puissance exécutrice de l'État. Tout serait perdu si le même homme ou le même corps des principaux ou des nobles ou du peuple exerçait ces trois pouvoirs, celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers.
Cette distinction des puissances, c'est l'inspecteur expliqué au début de cette lecture. Comment résonne-t-elle avec le contemporain, avec ce que l'on traverse aujourd'hui ?
Alors bon, il faut quand même faire attention de pas trop projeter, quelque chose qui valait pour la monarchie constitutionnelle à l'anglaise et puis la forme de notre République. Mais il est vrai que la Ve République en France comporte des institutions qui peuvent s'apparenter à celles de l'époque. Alors c'est beaucoup plus subtil que ça, et je suis pas constitutionnaliste, mais si vous voulez... Quelle est la justification de l'existence, par exemple, d'un monarque dans le type de monarchie constitutionnelle à l'anglaise qu'envisage Montesquieu ? C'est tout simplement qu'il faut un pouvoir exécutif qui puisse agir dans l'urgence, en cas de guerre. Bon, nous voyons bien aujourd'hui que même si la réforme de 2008, par exemple, a réintroduit la validation du Parlement, pour engager les troupes, par exemple, à l'étranger, il faut que dans les 3 mois, le Parlement valide.
On parle de la réforme constitutionnelle.
Voilà, la réforme constitutionnelle française. Eh bien, on a toujours besoin d'un pouvoir exécutif qui puisse engager les troupes le moment venu. Et donc, on a toujours besoin d'un exécutif qui puisse agir en cas de crise, en cas d'attaque terroriste, en cas d'entrée en guerre. On a toujours besoin de cette fonction. Et il ne s'agit pas, pour Rousseau lui-même, qui est un républicain fervent, de la supprimer. Et Rousseau le dit très bien, le droit de la guerre et de la paix, ça relèvera toujours du gouvernement, c'est-à-dire pas de la loi au sens de l'expression de la volonté générale, mais plutôt du décret, parce qu'on a besoin de cette action, cette temporalité brève. Après, effectivement, la question est de savoir quelle est la fabrique de la loi, quelles sont les institutions, et ce qui est très nouveau, disons, dans notre République, par rapport à ce qui se passait il y a 250 ans, c'est qu'en réalité, on a inventé un dispositif de contrôle de constitutionnalité. Alors, il y a eu d'abord la Cour suprême, qui a été introduite à partir de 1803, notamment aux États-Unis. C'était pas immédiat, pas en 1787. Et puis, progressivement, le contrôle de constitutionnalité qui s'est amendé, sophistiqué. Et ça change beaucoup la pratique vraiment constitutionnelle, puisque maintenant, on doit pouvoir, effectivement, faire ce filtre pour savoir si les lois sont ou non conforme à la Constitution.
Quel est le rôle dans tout cela de la société, des citoyens vis-à-vis de cette démocratie représentative ? À quoi doivent-ils veiller pour le bon fonctionnement de la représentation nationale ?
Alors, il y a beaucoup de choses sur lesquelles le citoyen doit veiller. Tout d'abord, effectivement, il n'est pas seulement attendu de lui qu'il élise tous les 5 ans, 6 ans ou 7 ans,
ses représentants.
Évidemment, la démocratie, ce n'est pas seulement la démocratie électorale. C'est très bien établi depuis très longtemps. Il y a de très nombreux éléments qui font une démocratie vivante. Et notamment, l'engagement dans les partis politiques, l'engagement dans les associations, mais aussi le contrôle a posteriori de l'action des élus, des gouvernants et des représentants. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Montesquieu, quand il observe le système anglais, dans un chapitre qui est moins lu que celui sur la Constitution d'Angleterre et qui parle plutôt des mœurs des Anglais, il insiste sur la liberté de la presse. C'est quelque chose que Benjamin Constant va également mettre en exergue quand il va interpréter Montesquieu au début du 19e siècle. La liberté de la presse, c'est absolument essentiel. Et aujourd'hui, on dirait le pluralisme, l'indépendance des médias, la possibilité, par exemple, comme en France, d'avoir un service public des médias, c'est absolument essentiel pour pouvoir avoir une démocratie vivante, parce que la démocratie est menacée par la désinformation, par la guerre hybride, par les ingérences, par toute une série de choses qui font que, ben voilà, il suffit pas de voter une fois de temps en temps, et ça Rousseau le disait très bien dans le Contrat social, ben, si on faisait que ça, vraiment, on serait esclaves.
Je vous cite un extrait de la dernière vague de l'Euro Bazooka, un baromètre des opinions publiques européennes réalisé par Cluster 17 pour la revue en ligne Le Grand Continent qui a paru la semaine dernière. Il montrait que 24% des Français sont aujourd'hui favorables à un pouvoir plus centralisé, plus autoritaire. Il s'agit du taux le plus élevé en Europe parmi les 9 pays sondés. Alors, je vais pas vous demander comment expliquer ce chiffre, ce serait bien compliqué, mais comment expliquer en revanche, du point de vue de la philosophie politique, que, en démocratie, certains soient toujours tentés par un régime plus autoritaire?
Alors, c'est vrai qu'il y a une fragilité de la démocratie et que quand il peut y avoir un peu de désordre dans la démocratie ou de conflictualité ou d'impression qu'en effet tout n'est pas absolument sous contrôle, on peut avoir des tentations dans l'homme ou la femme providentielle et puis en général dans des institutions plus autocratiques. Alors, ce qui a été très bien établi dans la littérature concernant le populisme, alors c'est un terme très controversé, mais bon, par Nadia Urbinati notamment, c'est qu'en réalité, il y a une sorte de fantasme de la démocratie populiste, hein, qui conduit ensuite à l'autoritarisme, qui est ce qu'elle appelle la représentation directe. C'est clairement un oxymore. C'est-à-dire qu'on veut abolir finalement la médiation et on voudrait peut-être que le chef autoritaire soit directement l'incarnation du peuple. Hein, et elle dit très bien finalement, ben voilà, la nature de la démocratie populiste, c'est la représentation directe. Son principe, hein, pour reprendre les termes de Montesquieu, c'est l'anti-establishment, c'est la critique des élites, etc.
Mais ça, pardonnez-moi, vous nous dites, ce n'est pas un idéal démocratique, c'est une démarche populiste.
Ben, on ne peut pas dire que l'idéal démocratique, c'est d'abolir la démocratie. Donc il y a sans doute des fragilités.
Non, par contre, on peut vous dire l'idéal démocratique, c'est la démocratie directe et permettre à chacun de voter tout le temps sur tous les sujets.
Bien entendu. Et effectivement, on pourrait développer ici d'autres propositions qui ont été faites pour essayer de résoudre la question, pour donner des voies de solution à l'érosion démocratique et aux tendances autocratiques, hein, qu'on perçoit bien. Et notamment, effectivement, la démocratie délibérative ou la démocratie participative. Donc cette idée qui est tout à fait noble, hein, selon laquelle, effectivement, des démocraties délibératives, il faut un échange d'arguments, une pesée du pour et du contre, il faut que les citoyens puissent participer à des assemblées citoyennes tirées au sort, avec éventuellement des consensus, des conférences de consensus, des jurys citoyens, il y a toutes sortes de formules, un peu comme on l'a fait pour la Convention citoyenne pour le climat, qui à bien des égards a été une réussite, enfin on peut le tempérer, mais ça a été quand même une belle réussite. De là à faire des citoyens les co-législateurs, ce qui est proposé par certains politistes comme Hélène Landemort, je crois qu'il y a quand même une marge. Hein. C'est très différent de vouloir dynamiser et vitaliser la démocratie représentative en proposant effectivement toutes sortes de conventions citoyennes ou de jurys citoyens, de forums hybrides, etc. Autre chose de vouloir instituer des citoyens tirés au sort en co-législateurs et de leur donner clé en main la fabrique des lois, alors qu'ils ne sont pas responsables devant le peuple, alors qu'effectivement, ils n'ont pas cette responsabilité à assumer, de bilan à défendre, de reddition des comptes à assurer, etc.
Mais je vous ai coupé sur la pente autoritaire, sur la demande citoyenne vers un régime plus autoritaire, parfois même en démocratie.
Alors, bon, moi, c'est quelque chose qui personnellement m'effraie, mais qu'il faut bien, auquel il faut faire face. Hein. C'est quelque chose que depuis Platon, on réfléchit, qui est au cœur de la réflexion sur la démocratie. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qui, dans la démocratie, risque de la corrompre au point que certains de ses citoyens, certaines factions, certains groupes politiques, puissent aspirer à son renversement en tyrannie. Et je crois que la vulnérabilité fondamentale de nos démocraties, c'est que ce sont des espaces de liberté où les citoyens s'informent un peu comme ils le veulent, où ils peuvent s'engager dans des associations ou des partis politiques comme ils l'entendent. Mais en même temps, quels sont les dispositifs de protection de la démocratie qu'une démocratie peut mettre en œuvre sans devenir une dictature ou une autocratie? Et c'est là qu'on a toute une réflexion sur ce qu'on appelle la démocratie militante. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut, par exemple, interdire certains partis qui, au fond, se présentent comme démocratiques, mais qui travaillent à la mise à mort de la démocratie? Est-ce qu'il faut et comment lutter contre les ingérences étrangères? Aujourd'hui, on est très confronté à ça, la désinformation, la guerre hybride. Comment est-ce qu'une démocratie peut se protéger de manière efficace sans renoncer à ce qui fait son essence, la liberté d'expression, la liberté d'association, voilà, la liberté d'engagement dans des partis. Donc, si vous voulez, on est en fait très fragile parce qu'évidemment, dans les autocraties, ils instituent des murailles du net, ils verrouillent les réseaux et ils n'ont pas cette fragilité qui nous conduit à nous exposer à ces vulnérabilités.
D'un tout petit mot, Céline Spector, est-ce qu'on est selon vous en crise de régime ? Est-ce que le problème, ce sont les institutions françaises et la Ve République ou bien, d'une manière plus profonde, on est dans une crise politique ?
Je crois qu'on est dans une crise politique qui a été déclenchée par effectivement la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais je crois qu'au-delà, il faut réfléchir à ce qui se passe un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on a une élection au Chili, il y a une élection en Argentine, des élections un peu partout, en Europe, en République tchèque récemment, après la Slovaquie. Bon, demain, on verra ce qui se passe en Hongrie. Mais je crois que c'est un phénomène qui va bien au-delà de la France. Donc, il faut réfléchir à ce qui menace nos démocraties. Enfin, c'est vraiment le terme d'érosion démocratique devient maintenant trop faible. Ce qu'on appelait le democratic backsliding, c'est-à-dire, atteinte à la liberté des médias, remise en cause donc de la liberté de la société civile, remise en cause de l'état de droit, de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il y a toute une série de choses qu'on voit à l'œuvre. Là où effectivement des partis favorables à l'autocratie ont pris le pouvoir. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour résister ? C'est un peu ça, la question. Est-ce qu'il faut qu'on mette en place, c'est la solution proposée par certains, une démocratie plus délibérative, plus participative ? Est-ce que ça va suffire ? Ou est-ce qu'il faut qu'on ait des moyens d'action un peu plus forts ? Et notamment, protéger nos médias, protéger notre service public de la démocratie, lutter contre l'ingérence étrangère et la désinformation.
Merci beaucoup, Céline Spector. Je redonne le titre de votre ouvrage qui est paru en 2021 aux éditions du Seuil, « Nos démos, souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe ». Merci également à celles et ceux qui ont préparé, pensé cette émission à mes côtés. Bertie Bourdon, Bruno Barada, Rodi Eken, à la réalisation, François Richer.